affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Cette émission a été enregistrée un 13 janvier, jour où l'Église catholique fête les Saintes Hilaire. Issu d'une famille païenne aisée, Hilaire s'est converti au catholicisme et est devenu au 4e siècle de notre ère évêque de Poitiers. Adversaire résolu de l'arianisme, il est également réputé avoir été un théologien de premier plan, un écrivain de talent, une âme passionnée et un cœur tendre. Ces quelques informations sur le saint du jour sont issues du dictionnaire des saints et grands témoins du christianisme que viennent de publier aux éditions du CNRS messieurs Jean-Robert Armogat et André Vaucher, respectivement correspondants et membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Elles suffisent à démontrer que se plonger dans l'histoire des saints revient à plonger dans l'histoire tout court. Mais en sommes-nous encore bien conscients? Dans les pays chrétiens, les noms de saints emplissent notre quotidien. Prénom, patronyme, lieu-dit, gare, station de métro, on en passe. Les noms des saints sont devenus si familiers que l'on n'y prête plus guère attention. Pour lutter contre cette amnésie regrettable, le dictionnaire des saints et grand témoin du christianisme est d'un précieux secours. Avec plus de 300 entrées, de A comme Aaron à Z comme Zénon, il est une arme contre l'oubli et un vecteur de réenchantement de cet univers familier. C'est pourquoi nous sommes très heureux de recevoir dans notre studio André Vaucher. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous êtes ancien directeur de l'École française de Rome, spécialiste du christianisme médiéval, que vous avez dirigé plusieurs volumes de l'histoire du christianisme, mais également publié déjà de nombreux ouvrages sur des saints, dont un saint François d'Assise, un sainte Catherine de Sienne et un saint, sur un saint moins connu, saint Ombon de Crémone, que vous nous aviez d'ailleurs présenté à notre antenne. Ma première question portera sur le livre lui-même, car si l'histoire sainte a une genèse, et si les saints ont une histoire, le livre aussi en a certainement une.
Oui, absolument. C'est un dictionnaire qui a 1300 pages, donc qui est gros, mais qui est le résultat d'une recherche qui, au fond, a duré pendant une quarantaine d'années, parce que il est le fruit tardif, mais néanmoins toujours utile, d'un effort qui a été fait à partir des années 1980 pour mieux connaître les saints, qui sont des personnages omniprésents, comme vous venez de dire, et en même temps souvent très mystérieux et mal connus ou méconnus. Alors, en 1985, il y avait eu un dictionnaire des saints et de la sainteté chrétienne qui avait été lancé par les éditions Hachette, enfin, une filiale de Hachette, le livre de Paris, et ça avait donné une énorme collection de 11 volumes, magnifiquement illustrés. Les saints étaient réunis par période chronologique, depuis l'héritage biblique jusqu'à nos jours, voilà, 11 volumes, mais ces volumes étaient, et sont restés, d'accès très difficile parce qu'ils étaient vendus par courtage, c'est-à-dire qu'il fallait acheter toute la collection pour pouvoir le posséder. Les bibliothèques n'ont jamais pu l'avoir, sauf exception. Voilà, donc il y avait un énorme gisement de textes faits par les meilleurs historiens de l'époque, enfin, en tout cas dans leur grande majorité, et qui était resté un petit peu méconnu, sauf auprès d'une minorité de souscripteurs qui avaient acheté l'ouvrage en son temps. Alors, j'ai réussi à convaincre les éditions du CNRS de reprendre à leur compte ce gisement, et après accord avec l'éditeur Primitif, nous avons restructuré toute cette collection en un dictionnaire. Un dictionnaire qui ne reprend pas toutes les entrées qui étaient dans l'histoire des saints et de la sainteté chrétienne de 1985, mais qui en reprend l'essentiel et qui le complète en ajoutant les saints canonisés dans l'Église catholique entre 1980 et aujourd'hui, 2020 ou 2019, et éventuellement dans l'Église orthodoxe. Bref, nous avons fait une mise à jour de ce gisement donc, qui préexistait déjà depuis 35 ans, mais qui était pratiquement inaccessible ou peu accessible. Voilà la genèse, si vous voulez, de l'entreprise. Alors, les textes sont ceux qui avaient été rédigés par les auteurs en 1985, qui ont été, dans certains cas, mis à jour quand il y en avait besoin, abrégés parce qu'ils étaient souvent trop longs. Donc tout ça, c'est le travail éditorial qui a été fait par le père Armogat et par moi-même. Et puis, avec un de nos collaborateurs, nous avons rédigé et ajouté donc, des notices sur les saints et en particulier tous les saints canonisés par Jean-Paul II, qui a été un grand canonisateur et qui, à lui seul, a canonisé, je crois, autant de saints que tous ses prédécesseurs avant lui au 19e siècle, depuis le 19e siècle. Voilà. Donc, dans son état actuel, il s'agit d'une version revue, corrigée et remaniée de l'ancienne histoire des saints et de la sainteté chrétienne. Alors là, nous avons modifié le titre, hein, on avait mis les saints et les grands témoins du christianisme, parce que nous restons dans le cadre du christianisme, hein, nous n'empiétons pas sur les autres religions, mais comme vous le savez, dans le christianisme, il y a certaines églises ou courants spirituels qui ne reconnaissent pas la notion de sainteté, ou plus exactement qui lui donne un sens purement moral ou théologique, mais qui n'admettent pas l'idée du culte des saints. C'est le cas en particulier des églises protestantes. Ce qui n'empêche pas, bien entendu, que dans ces églises, il y ait des grandes figures, et que ces églises elles-mêmes, d'ailleurs, ont souvent exalté ces figures, mais en leur refusant de leur donner le titre de saint. Alors il nous a semblé que ces personnages méritaient tout à fait d'être intégré dans notre dictionnaire. Et donc, nous avons des saints de l'Église catholique, mais aussi ceux des églises protestantes, enfin, ou en tout cas les grands hommes des églises protestantes, et les saints des églises orientales, en particulier de l'Église orthodoxe. L'Église russe, par exemple, a canonisé, comme l'Église catholique, beaucoup de saints qui ne sont pas très connus en Occident, mais qui méritent de l'être.
Alors cette première distinction entre saint et inspirateur, grande figure s'agissant des églises protestantes, me conduit à m'interroger sur finalement qu'est-ce qu'un saint ? Qu'est-ce qu'il distingue, au-delà du fait qu'il était désigné comme tel par l'Église ? Qu'est-ce qu'un saint ? Comment cette notion apparaît-elle ? Dans quel contexte et pourquoi ?
Alors la notion de saint, elle est spécifiquement chrétienne, elle apparaît tout de suite, dès les premières persécutions dans l'Empire romain, les martyrs, ceux qui meurent pour leur foi, qui sont tués, exécutés pour leur foi, sont considérés comme des saints. Alors saints, ça veut dire des gens qui sont tellement imprégnés de Dieu qu'ils sont prêts à donner leur vie pour lui. Voilà, c'était ça. Le saint est un homme ou une femme de Dieu, pour lequel la fidélité à Dieu, la foi est primordial, et qui sont prêts, encore une fois, à donner leur vie pour cela. Donc le premier sens du mot saint dans la chrétienté, c'est le martyr. Le martyr, c'est lui qui va jusqu'au bout, et alors là, il n'y a pas de discussion, il est tué, il est mutilé, il est supplicié, par haine de la foi, comme on dira plus tard, et donc il n'y a pas de problème de faire des enquêtes pour savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, parce que le fait là est là. Voilà. Donc les débuts sont clairs et nets. Alors après, ça se complique parce que à partir du moment où l'Empire romain est devenu lui-même chrétien au IVe siècle, il n'y a plus de persécution, il y a de moins en moins de martyrs, sauf en dehors de l'Empire romain, mais c'est pas des grands nombres. Et donc on élargit la notion de sainteté à des chrétiens tout à fait remarquables par leur puissance doctrinale, parce qu'ils ont contribué à définir la foi chrétienne dans les credos, dans les conciles. Voilà, alors ce qu'on appelle les pères de l'Église, Augustin, Ambroise, etc., Grégoire le Grand. Et puis, à côté de ces saints, donc les pères de l'Église, qui sont plutôt des saints doctrinaux, entrent en nombre sans cesse croissant à partir du 5e siècle, des saints évêques, souvent le premier évêque de telle ou telle ville ou l'évangélisateur de telle ou telle région, qui après sa mort est considéré comme un homme de Dieu, un homme qui a apporté l'évangile dans la ville ou la région en question, et qui, en tant que tel, doit être vénéré spécialement. Voilà, donc c'est comme ça que se met en place par strates la sainteté chrétienne, avec des développements en fonction de l'évolution de la situation du christianisme dans la société, mais aussi l'évolution des sociétés elles-mêmes.
Alors au départ, au moment où ce sont avant tout des martyrs, est-ce que cette reconnaissance de la sainteté est plutôt un mouvement spontané, populaire, l'occasion d'une piété populaire, ou est-ce que d'ores et déjà c'est l'institution qui désigne au peuple des croyants les saints vénérés?
Non, au début c'est vraiment spontané, c'est-à-dire que nous avons des récits d'ailleurs nombreux et précis là-dessus, lorsque les martyrs sont exécutés, eh bien la communauté chrétienne locale à laquelle ils appartiennent s'efforce de récupérer soit ses ossements, soit ses cendres. Enfin, il y a tout de suite une recherche de restes, de ce qu'on appellera les reliques. Les reliques, ce n'est rien d'autre que les restes physiques des saints. Alors, ça peut être des ossements, ça peut être un corps entier parfois, ça peut être aussi des particules simplement, des petits morceaux de chair ou d'os. Et pendant tout le Moyen-Âge, il va y avoir une énorme circulation de reliques dans la chrétienté, aussi bien en Orient qu'en Occident. Voilà. Donc on part de quelque chose de très concret, le corps du saint, ses reliques. Et dans un premier temps, l'Église, disons l'évêque local, ne fait que sanctionner, approuver une dévotion spontanée. Puis ensuite, justement, le problème des reliques s'est posé. Les reliques commencent à circuler massivement à partir des 6e, 7e siècles, et avec évidemment la possibilité d'introduire aussi de fausses reliques, parce que à côté des vraies, il y en a certainement eu des fausses.
Oui, vous parlez de reliques par invention ou par translation. Voilà. On peut définir.
Alors, translation, c'est simplement un transfert d'un fragment de relique d'une châsse à une autre, d'une église à une autre. Et l'invention, alors c'est le fait de chercher en terre un corps dont on pense qu'il est celui d'un saint, mais évidemment, parfois, on y mettait un peu trop de zèle et on avait tendance à proclamer saint des gens dont on n'était pas absolument sûr que, véritablement, ils l'avaient été. Donc, il y a... commence à se poser des problèmes, surtout que le culte des saints se développe à partir de l'Italie. Il passe en France, enfin en Gaule, bientôt en France, ensuite Allemagne, etc. Et à ce moment-là, on commence à éprouver le besoin de contrôler un peu tout ça pour que ça ne sombre pas dans l'anarchie et dans la superstition. Et dès l'époque carolingienne, enfin Charlemagne et ses successeurs, des synodes d'évêques se réunissent et seuls ont le droit de proclamer quelqu'un saint. Voilà. Donc à partir du 9e siècle, ce sont les évêques d'une région qui décident, une fois réunis en synode, c'est-à-dire en petit concile régional ou national, décident que X ou Y a le droit d'être vénéré, et de faire l'objet d'un culte liturgique, parce qu'on a toujours le droit de vénérer quelqu'un à titre privé. Le problème que pose le culte des saints, c'est le culte public, parce que très vite, c'est créé l'habitude de célébrer l'anniversaire des saints, le jour de leur anniversaire de leur mort. C'est la date à laquelle ils sont nés au ciel. Donc ce jour-là, on fait une célébration à l'église. Et bientôt, il y aura des offices propres, une liturgie des saints, etc. Donc avant de reconnaître un culte, d'accorder un culte public, il faut que l'église contrôle l'authenticité de la sainteté du personnage en question. Alors les évêques le font plus ou moins bien entre le 9e et le 12e siècle. Et comme on est au XIIe siècle, une période de grande centralisation de l'Église sous l'impulsion de l'évêque de Rome, eh bien à partir de la fin du XIIe, les papes, évêques de Rome, commencent à s'intéresser de plus près au culte des saints qu'ils avaient organisé à Rome, mais qu'ils ne contrôlaient pas dans le reste de la chrétienté, et à vouloir établir des règles plus strictes. Et alors, il y a un glissement qui s'opère entre la fin du XIIe, début XIIIe, où finalement on aboutit à l'idée vers 1230, qui est promulguée par le droit canon, que seul le pape a le droit de canoniser les saints. Et que donc, pour qu'un saint puisse être vénéré par toute la chrétienté, par tous les chrétiens, il faut qu'il ait été approuvé par le pape. Ce qui n'interdit pas aux évêques de reconnaître des saints mais qui seront vénérés uniquement dans leur diocèse d'origine. Voilà. Donc on a un double secteur.
Donc là, c'est le début des procès en canonisation.
Voilà. Et alors, à partir du XIIIe siècle, on commence à faire des enquêtes ordonnées par la papauté, avec audition de témoins sur la vie, les vertus, les miracles. Au début, c'est quelques témoins, puis on arrivera dès la fin du XIIIe siècle à plusieurs centaines de témoins. Il y a des procès qui durent pendant des années, et une procédure de plus en plus lourde et de plus en plus complexe, et qui le deviendra encore plus à l'époque moderne, parce que dans la mesure même où les protestants avaient rejeté le culte des saints, donc il y avait là-dedans beaucoup de superstitions et d'erreurs, et donc l'Église catholique a été amenée à verrouiller encore plus le contrôle.
Oui, il parlait d'une sainteté sous contrôle.
Et on a vraiment une sainteté sous contrôle à partir du XVIIe siècle, et un contrôle romain extrêmement tatillon, et avec un avocat du diable qui essaye de démolir la réputation de sainteté du personnage en question, etc. Donc on arrive à des procédures qui ont été en vigueur dans l'Église catholique jusqu'à nos jours.
Alors dans cette procédure, il y a là aussi cette idée qu'il ne pouvait pas y avoir de culte public, puisque tout procès en canonisation doit commencer par un constat de non-culte.
Voilà, alors ça c'est une exigence qui apparaît à l'époque moderne.
Hein. Urbain, oui, c'est ça.
Voilà.
Urbain VIII.
Ce qui a compliqué, ce qui a justement freiné beaucoup de dévotions locales, où les a retardé la reconnaissance de nombreux saints. Mais à l'époque médiévale, ce n'était pas aussi strict. On demandait, au contraire, je dirais, la papauté n'ordonnait une enquête que lorsqu'elle avait la preuve que le personnage en question, considéré comme saint ou sainte, avait déjà localement ce qu'on appelle une réputation de sainteté.
Oui, c'est ça, c'est quelque chose qui semble contradictoire. Comment un nouveau saint peut-il émerger localement si une des conditions pour qu'il émerge, c'est qu'il n'y ait pas de culte local?
Effectivement, il y a un vrai problème. Ce n'est pas aussi contradictoire qu'on pourrait le croire, parce que ce qui, au Moyen-Âge surtout, est à l'origine du culte des saints, ce sont les miracles. Donc on peut très bien attribuer des miracles à un saint sans qu'il y ait un culte public. Il suffit d'aller à sa tombe, d'amener un malade ou une malade sur la tombe, ou lui faire toucher la tombe ou les reliques. Il est guéri, bon, ben, ça contribue à la notoriété du saint en question. Voilà.
Alors justement, à quel moment cet élément-là, ce critère-là, le miracle, devient-il un critère de la sainteté? Parce qu'au début, un martyr, oui, il n'y a pas de miracle.
Au début, le vrai miracle, le seul, c'est que le saint est tenu bon jusqu'au bout, qu'il ait été assassiné, qu'il ait été brûlé, qu'il ait été tout ce qu'on veut, tué d'une façon ou de l'autre, sans renier sa foi. Voilà, c'est ça le miracle, avec un grand M. Et donc celui qui est allé jusqu'au bout, ben celui-là, il sera sauvé et il sera sanctifié. Voilà. Mais très vite, on enregistre justement autour des tombes de ces saints, personnages réputés saints, on enregistre des guérisons miraculeuses. Des gens viennent, plus ou moins nombreux, pour toucher le tombeau. Les reliques, c'est rare qu'on puisse les toucher parce qu'en général, elles sont dans une chasse, mais enfin, au moins les voir et toucher les tombeaux. Et même au début, on a des gens qui passaient ce qu'on appelait une neuvaine au tombeau. Une neuvaine, ça veut dire qu'ils dormaient huit jours entiers, ils dormaient huit nuits, et passaient huit jours et huit nuits dans l'église où reposait le saint à côté de sa tombe, dans l'espoir que le saint viendrait les guérir. Et les recueils de miracles de l'époque sont pleins justement d'histoires de ce genre, où des personnages qui dormaient là, tout à coup voient une grande lumière, voient apparaître un personnage lumineux qui les assure qu'ils vont être guéris, et ils le sont. Voilà. Donc il faut replacer tout ça dans le continuum, disons, qui va depuis la réputation de sainteté liée au martyr jusqu'à la réputation liée aux vertus, aux capacités thaumaturgiques, comme on dit, c'est-à-dire le saint guérisseur, le saint qui ressuscite les enfants à peine mort-nés, etc. Oui. Il y a toutes sortes de signes extérieurs de reconnaissance de la sainteté.
Alors, vu de l'extérieur, notamment d'autres religions monothéistes, le culte des saints, c'est une résurgence du paganisme. Mais lorsqu'on parle de guérison miraculeuse ou autre, on se pose effectivement la question, est-ce que n'est-ce pas l'expression d'une piété populaire, un peu magique, en d'autres termes, est-ce qu'on ne s'est pas posé la question de savoir si c'était une résurgence de l'idolâtrie ?
Si, bien sûr, dès le début, il y a eu des contestations, des discussions à ce sujet-là. Aujourd'hui, on ne croit plus tellement, contrairement à ce qui était le cas au XIXe siècle, même encore au début du XXe, que les saints soient les successeurs des dieux du paganisme. Parce que d'abord, les saints sont des hommes, hein, ce ne sont pas des demi-dieux, ce ne sont pas des dieux incarnés ou des démons incarnés, ce sont bien des hommes et des femmes. Donc, voilà, il y a quand même là une différence fondamentale entre les héros de l'Antiquité ou les demi-dieux de l'Antiquité et les saints. Mais là où justement la question se complète, c'est que les populations récemment converties au christianisme dans les premiers siècles de l'Église ont eu tendance à vénérer les saints chrétiens comme ils vénéraient ou elles vénéraient les héros du paganisme. Et souvent, parfois, sur les mêmes lieux, il y a des phénomènes de continuité, parfois, cultuels, sur un même endroit, où jusqu'à une certaine époque, on vénérait des divinités, par exemple les sources de la Seine, les sources des fleuves, étaient toujours des endroits où, dans le paganisme, il y avait des lieux de culte et des guérisons. On a retrouvé des tas d'ex-voto. Eh bien, la tendance ensuite, c'est de continuer
noire
au même endroit, mais en plaçant le lieu où les miracles se produisaient sous la titulature, sous la protection d'un saint chrétien. Voilà. Donc, il n'y a pas de confusion, je pense, au niveau de la distinction entre héros et saint, mais il y a des phénomènes de continuité, parfois, pas toujours, au niveau des lieux où se produisent ce qu'on appellera les sanctuaires, où se construisent parfois les églises chrétiennes, qui sont dans le prolongement d'édifices antiques du paganisme.
Alors, du reste, il y a quand même un statut un peu particulier, parce que le saint est certes une personne physique qui a existé, dont la vie ou la mort a été édifiante. Toutefois, une fois qu'il est décédé, qu'il est monté aux cieux, qu'il est reconnu comme saint, il est capable d'intercéder.
Voilà.
Donc il a quand même un statut de médiateur entre le monde d'ici-bas et le ciel.
Exactement. Donc ça, c'est très important. Autour de la sainteté, c'est construit très vite, dans les premiers siècles du christianisme, la notion d'intercession. Déjà dans le credo, enfin, dans les textes fondamentaux de la nouvelle religion, on parle de l'intercession de la Vierge Marie, de Saint-Michel Archange, etc. Mais on étend ensuite progressivement cette notion d'intercession à tous les saints vénérés par l'Église. Donc les saints sont considérés comme des personnages qui ne sont pas évidemment au même niveau que Dieu, mais qui peuvent agir sur lui, qui peuvent faire pression, si ça a un sens, c'est évidemment une image, sur Dieu en faveur de telle ou telle personne, de telle ou telle collectivité. Et ça va être un aspect très important du patronage urbain des saints. Les saints vont devenir, certains saints vont devenir les patrons attitrés de telle ville, soit parce qu'ils y ont été martyrisés, soit parce qu'ils en ont été l'évêque ou les évêques pendant un certain temps, etc. Donc il y a un lien très fort qui s'est mis en place justement entre le 5e et le 8e siècle en Occident, mais en Orient c'est pareil, entre des saints et des agglomérations, des villes, etc. Voilà, donc on vénère le saint et on le considère comme un patron. Alors patron, aujourd'hui, on ne sait plus très bien ce que ça veut dire, ce ne sont évidemment pas des patrons du point de vue économique ou social, mais ce sont des patrons au sens antique du terme. Le patron était un avocat, une sorte de représentant d'une ville, d'une cité, auprès de l'empereur. Et quand il y avait des problèmes, eh bien, ce personnage qui vivait à proximité de la cour impériale, aller voir l'empereur ou les bureaux du gouvernement et se faisait l'avocat de telle ou telle population. Eh bien, le pouvoir impérial disparaît avec l'époque romaine, mais justement, les saints deviennent des substituts un petit peu de cette administration romaine à laquelle on s'adressait par l'intermédiaire de patrons. Et donc, le fait de devenir le patron, le saint patron d'une ville ou d'une collectivité ou d'un groupe professionnel, fait de ce saint un intermédiaire entre le groupe humain ou l'individu et
le roi du ciel.
Voilà.
Puisque vous évoquiez cette liturgie, dans le credo, il y a l'expression communion des saints.
Alors, la communion des saints, c'est une notion qui est un peu obscure aujourd'hui, même pour les catholiques, pour les chrétiens. Communion des saints, c'est l'idée de ce que les théologiens appellent la réversibilité des mérites. C'est-à-dire que, prenons le cas des martyrs, en acceptant, en subissant le martyr et en restant fidèles à leur foi, ils se sont acquis des mérites auprès de Dieu. Et c'est à ce titre qu'ils peuvent avoir de l'influence, parce que on considère que Dieu a pour eux une estime particulière, et donc il sera sensible à leurs requêtes, à leurs demandes. Voilà. Donc c'est par ce jeu de pouvoir, en quelque sorte, qu'on arrive à la notion d'intercession des saints, et intercession qui est quelque chose de fondamental, qui se joue aussi au niveau individuel dans le choix des prénoms. Lorsqu'on choisit un prénom, de donner à un enfant un prénom, à l'origine, aujourd'hui ça c'est tout à fait autrement, la plupart des cas, mais on disait dans l'Antiquité, nomen est omen, le nom est un présage. Eh bien, quand on donnait tel ou tel nom, plutôt que tel ou tel autre, d'un saint, c'était aussi une manière d'orienter un peu la vie du nouveau-né, oui, de lui donner déjà une certaine orientation. Par exemple, quand on donne à un enfant le nom de Benedictus, Benoît, eh bien, ça peut vouloir dire qu'on le distingue, qu'on le destine à une vie monastique. Ce n'est pas automatique, il n'y a aucune règle écrite ou obligation, mais c'est déjà une indication.
Alors justement, les saints ont été longtemps recrutés, nous dites-vous, parmi les moines. Il y a toute une phase où les fondateurs d'ordres monastiques deviennent, pas systématiquement, mais enfin fréquemment, des saints.
Est-ce que c'est bon? Absolument. Le grand problème, le grand essor du christianisme entre le 7e et le 12e siècle, est lié à l'essor du monachisme. Alors l'essor du monachisme, avec saint Benoît, mais pas seulement, il y a aussi les Irlandais, avec saint Colomban, en Espagne, il y a d'autres ordres religieux, etc. Voilà, donc il y a un phénomène social, socio-économique même, et culturel, qui est l'essor du monachisme, et les monastères sont considérés comme des sortes de lieux saints par excellence, et des gens qui vivent retirés du monde, consacrant beaucoup de temps à la prière, au chant liturgique, etc., priant pour les morts et pour les vivants. Voilà, donc il y a une tendance à considérer le moine comme le saint par excellence, enfin, le chrétien par excellence, et donc les fondateurs, non seulement d'ordre religieux, avant le XIIe siècle, il y a très peu d'ordre religieux, mais les fondateurs de monastères, surtout quand ils ont été de bons abbés, sont souvent, a priori, de façon presque automatique, considérés comme des saints, oui. D'où la multiplication des saints moines ou moniales, aussi à moindre échelle chez les femmes. Donc on voit le panthéon chrétien, si je peux dire, qui comptait déjà de nombreux évêques, s'ajouter de nombreux moines. Alors la nouveauté à partir du XIIIe siècle, fin XIIe, mais surtout XIIIe, XIVe, c'est l'entrée en scène de saints laïcs, c'est-à-dire de gens qui n'étaient ni papes, ni évêques, ni prêtres, ni moines, mais qui restaient dans le monde, mariés ou non, et qui essayaient de vivre chrétiennement leur état de laïc. Alors, ça pouvait être comme roi. Alors, ça a commencé par les rois, les saints rois, les rois qui ont introduit le christianisme dans leur pays, comme saint Étienne, roi de Hongrie, qui a christianisé son peuple, autour de l'an 1000, mais aussi d'autres rois qui s'étaient distingués par leur sens de la justice, pensons à saint Louis en France, mais il y en a eu beaucoup d'autres en Europe à l'époque, dans les pays scandinaves aussi, en Angleterre, enfin, bref. Voilà, donc des laïcs, les rois, et puis ensuite des gens, je dirais presque du tout venant, même au XIIIe siècle, un marchand en Italie, saint Hommebon, qui, après avoir fait du commerce et s'être enrichi pendant une quarantaine d'années, tout à coup est saisi par un désir de conversion, abandonne tout, distribue sa fortune aux pauvres et fonde des hospices pour accueillir les pauvres et les malades, etc. Donc il y a toute une évolution dans la sociologie, si je peux dire, de la sainteté au cours du Moyen-Âge, avec un élargissement, alors de plus en plus, à la fin du Moyen-Âge, vers les femmes. Non pas qu'il n'y en ait pas eu avant, mais elles étaient très minoritaires, moins de 10%, et à partir du fin XIIe siècle, leur nombre ne cesse d'augmenter, et à la fin du Moyen-Âge, on a quelques très grandes figures, comme Sainte Brigitte de Suède, Sainte Catherine de Sienne, Jeanne d'Arc, bon, canonisée au XXe siècle, mais enfin qui a vécu au XVe. Voilà, donc une féminisation de la sainteté, et pas seulement en faveur de grandes abbesses ou de femmes ou de moniales, mais aussi parfois de laïcs.
On a l'impression aussi, mais c'est peut-être une impression trompeuse, que peu à peu, enfin, c'est évident, si on compare au martyr, le martyr, ce qui détermine sa sainteté, c'est sa mort, les conditions de sa mort. Et ensuite, ce qui compte de plus en plus, c'est la vie elle-même, la vie, la façon dont elle s'est déroulée, et la vie tout entière qui doit devenir édifiante.
Voilà. Effectivement, c'est le processus qui s'est développé. Au début, il n'y a que la mort qui est prise en compte, puisque c'est la façon chrétienne de mourir qui crée la sainteté. Mais à partir de, là aussi, 5e, 6e siècle, on voit se développer toute une littérature qu'on appelle la littérature hagiographique, c'est-à-dire qui concerne les saints. On écrit des vies de saints, et dans lesquelles on développe beaucoup, on met l'accent sur, les auteurs mettent l'accent sur la vie terrestre du saint, non seulement sa mort, mais surtout et de plus en plus sa vie, la façon dont il a vécu, ce qu'il a fait, ses œuvres. Et le grand classique en la matière, qui a marqué très profondément toute la géographie postérieure, c'est la vie de saint Martin de Tours, par Sulpice Sévère, donc à la fin du IVe siècle, qui a été un modèle extraordinairement influent, qui a suscité ensuite des centaines d'autres textes hagiographiques. Alors d'abord en faveur de saints évêques, mais pas seulement, puisque Martin était à la fois un évêque et un moine, donc...
Et un
soldat par-dessus le marché. Ouais.
Il coche toutes les cases pour...
Voilà, donc il était...
Pour être édifiant.
Il était idéal, puisqu'il était à la fois... Il avait une phase laïque, une phase épiscopale, une phase monastique. Donc il convenait pour tous les états de vie à l'intérieur du christianisme. Alors, dans ces textes hagiographiques, qui étaient d'abord à usage liturgique pour les communautés de moines, de chanoines dans les cathédrales, on mettait l'accent sur les vertus. Puis, il y avait une partie, à la fin, sur les miracles. Parfois, c'était mélangé, mais enfin, le plus souvent, c'était la vie et les vertus, et ensuite les miracles. Et alors, à partir du XIIIe siècle, avec l'institution du procès de canonisation, la partie consacrée à la vie et aux vertus devient la plus importante, parce qu'aux yeux de la papauté, bon, les miracles, c'est très bien, mais enfin... Il y avait un certain scepticisme parfois à la curie vis-à-vis des miracles qu'on envoyait, dont on faisait état, en trop grand nombre et pas toujours bien établi, pas toujours bien attesté. Donc ce qui était beaucoup plus sûr, c'était la vie, les miracles, la vie et les vertus. Voilà. Et donc l'enquête va finir de porter de plus en plus sur le comportement, les vertus, avec des grilles d'analyse. On commence à rédiger des listes d'articles. Et on vérifie ensuite, on contrôle, après d'avoir entendu et enregistré les témoignages des gens qui avaient connu ces saints, on voit dans quelle mesure leur vie concrète a correspondu à ce programme idéal d'existence.
Oui, et puis ce programme semble lui aussi avoir connu quelques inflexions liées certainement aux préoccupations du moment. Des moments où vous évoquez la figure du saint noble, celui qui a un pouvoir politique, qui exerce une autorité, qui va permettre la conversion de son peuple ou aux marges de l'Empire, j'imagine. Et ensuite, ce qui semble plus mis en avant, c'est l'humilité, la charité, probablement tout le contraire du caractère habituel du monarque de l'époque, non ?
Oui, absolument. Il y a au départ une large confusion, ou en tout cas identification entre la hiérarchie sociale telle qu'elle existe et la hiérarchie céleste. On considère que la noblesse, donc, et encore plus évidemment l'état monarchique, la situation du roi et de la reine, les prépare plus spécialement que d'autres à devenir des saints. Voilà. Donc on a tendance à ne retenir que les saints nobles ou les saints rois. Nous avons entre le 10e et le 12e siècle une sainteté presque purement aristocratique en Occident en tout cas. Mais en Orient, c'est à peu près pareil.
Je vous laisse
la parole. Alors, je dirai un mot sur l'Orient.
Oui.
Ensuite, on a un processus de, entre guillemets, démocratisation de la sainteté, dans la mesure où, à côté des nobles qui gardent tout leur prestige et des rois, apparaissent de nouvelles hiérarchies, de nouvelles valeurs, en particulier les valeurs intellectuelles, les grands docteurs, Thomas d'Aquin, etc., sont considérés comme des saints parce qu'ils ont écrit des œuvres théologiques et morales fondamentales, importantes pour l'Église. Et puis, il y a des valeurs professionnelles aussi, des artisans, à la fin, on a même des saints paysans, 14e, 15e, dans certaines régions. Voilà, donc, il y a toute une évolution. Alors, en Orient, c'était un peu différent parce que on a des choses qui ressemble à l'Occident au départ, des martyrs, bien entendu. On a des évêques, des pères de l'Église, grecs ou alexandrins en Égypte, etc. Voilà. Mais il y a un type de personnage qui est typiquement oriental, qui sont les ascètes. Les ascètes, c'est-à-dire des gens qui vivent dans l'austérité la plus totale, le dépouillement absolu, parfois nu, presque nu, le climat le permet des mieux qu'en Occident. Certains vivent perchés sur des colonnes, c'est ce qu'on appelle les stylites. Et là, on a des cultes extraordinairement populaires de saints stylites en Syrie, mais aussi à Constantinople ou dans les régions de l'actuelle Turquie. Voilà. Donc, il y a toute une veine de sainteté ascétique qui va d'ailleurs aussi avoir des répercussions en Occident. Mais en Occident, les évêques contrôlaient peut-être un peu mieux la situation et on considérait le fait de pratiquer une ascèse trop rigoureuse comme un signe de déséquilibre possible, mental. Voilà.
Oui,
donc, on se méfie beaucoup des gens qui sont trop ascétiques.
Oui, parce que dans l'ère orientale et dans l'orthodoxie, le feu en Christ n'est pas un objet de moquerie, mais
de vénération.
Mais de vénération.
Oui, c'est ça. Et alors de là, c'est du monde byzantin, ça va passer à l'Église russe, et l'Église russe va avoir cette double face. La sainteté orthodoxe a une double face. D'un côté, on canonise des princes, des souverains, qui ont joué un rôle important dans la vie de l'Église, comme Alexandre Nevski au XIIIe siècle, qui a écrasé les chevaliers teutoniques, les Polonais, enfin qui a vraiment sauvé l'orthodoxie russe. Et puis, on vénère aussi pauvres moines ou même des ermites un peu sulfureux, un peu fous, enfin, ou en tout cas, qui voulaient vivre dans le détachement le plus total, la solitude, la pauvreté, et qui étaient souvent d'ailleurs des contestataires à l'intérieur même de leur église. Vous voyez. Donc il y a ce double aspect, une sainteté à la fois hiérarchique et en même temps bien enracinée à la base dans l'église orthodoxe.
Alors dans cette église, vous parlez d'une autre figure, c'est des amagires, peu connus.
Les anargires.
Ben voilà, vous voyez, quand je dis peu connus.
Alors ce sont les médecins. Les médecins comédamiens, parce que là aussi, il y a des phénomènes de continuité cultuelle. Dans l'Antiquité, il y avait un grand sanctuaire d'Esculape à Épidaure, où on se rendait dans l'Antiquité pour être guéri de telle ou telle maladie. Et l'Église chrétienne a entrepris de supprimer évidemment ces cultes. Et elle y est arrivée en large mesure. En recourant à deux saints médecins, comédamiens, qui étaient vénérés, deux frères, qui ont été vénérés comme des saints guérisseurs et qui sont dans le culte est devenu très important surtout en Orient, mais aussi dans une moindre mesure en Occident. Voilà.
Donc, ils font partie du calendrier.
Ils sont dans le calendrier de l'Église latine, mais enfin, ils sont moins enracinés, disons, qu'en Orient, où vraiment ils sont omniprésents, on le voit. Si vous entrez dans une église orthodoxe, encore aujourd'hui, vous avez une bonne chance de trouver une image, une icône représentant Saint Côme et Damien.
Et au XXe siècle.
Pardon ?
Et au XXe siècle.
Alors, au XXe siècle, ben, c'est très, très intéressant de voir comment les choses évoluent. Alors, il y a eu une tendance entre l'époque moderne que j'évoquais tout à l'heure et puis aujourd'hui, ou le XXe siècle, il y a eu une tendance à une cléricalisation de la sainteté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où en Occident, Rome a voulu tout contrôler, ne sont guère passés à travers les mailles du filet que des fondateurs ou des fondatrices d'ordres religieux. Et ça a continué, ça, jusqu'au début du XXe siècle, quand vous prenez la liste des saints canonisés au XIXe siècle, ou jusqu'à la première moitié du XXe, vous avez surtout des fondateurs ou des fondatrices d'ordres de congrégations religieuses. Donc, c'est quelque chose d'assez restrictif. Même si c'était pas... Il y a évidemment des exceptions, on en trouve toujours, mais la majorité des saints de cette époque appartiennent à cette catégorie. Et depuis la deuxième moitié du XIXe, il y a eu un renouveau. D'abord, il y a eu les martyrs des pays récemment christianisés, disons, depuis un siècle ou un demi-siècle. Les martyrs de Corée, par exemple, les martyrs du Vietnam, enfin surtout les martyrs du Japon. Il y avait toute une série de canonisations entre la fin, enfin surtout la première moitié.
Tous les pays labourés par la mission étrangère, voilà, de Paris.
Partout, il y a eu des martyrs au moment de l'évangélisation. Alors, ce sont des gens qui sont canonisés en bloc, si je peux dire. Enfin, il y a 15 martyrs coréens, il y a 25 martyrs du Vietnam, etc.
Parce que ce sont des gens qui ont été tués.
Ils ont été tués dans la même époque, dans la même entreprise d'évangélisation. Donc on les a. Il n'y avait pas de raison particulière d'en monter un en épingle et de laisser tomber les autres. Donc on a un phénomène qui n'était pas inconnu avant, mais quand même assez rare, qui était de vénérer d'un seul coup un groupe de 30 ou 40 personnes, même plus. Je crois que c'est les martyrs de l'Ouganda, ils doivent être une centaine. Enfin, oui. Donc. C'est ce nouveau style de martyr missionnaire collectif qui est... Voilà. Et puis alors on voit réapparaître, j'en avais parlé pour le Moyen-Âge, mais ça avait largement disparu entre-temps, on voit réapparaître des saints laïcs, c'est-à-dire des hommes et des femmes pieux, pieuses, mais en même temps qui se sont signalés à l'attention de leurs contemporains par leur engagement, par exemple, dans l'assistance, dans la création d'hôpitaux, d'hospices, de mouvements de charité en faveur des pauvres, etc. Donc là, on voit réapparaître des personnages comme Ozanam, le fondateur des conférences de Saint-Vincent de Paul.
Suite de Saint-Vincent de Paul et de Saint-Louis de Marillac. À la suite de
Saint-Vincent de Paul lui-même, voilà. Donc, beaucoup de laïcs, disons, qui se sont sanctifiés dans les œuvres, ce qu'on appelle... les œuvres de miséricorde, c'est-à-dire toutes les manifestations de charité possibles envers les lépreux, mais aussi envers les prolétaires, parce que il y a beaucoup d'œuvres qui ont été créées au XIXe siècle en faveur des ouvriers qui vivaient misérablement, surtout au moment de la première révolution industrielle, dans des conditions de vie absolument innommables. Et donc ceux qui sont venus, peu nombreux, qui sont venus à leur aide à ce moment-là, ont été considérés, après coup en tout cas, peut-être pas sur le moment, mais après coup, comme des saints. Voilà.
Oui, enfin, à cette époque-là, il y avait quand même la doctrine sociale de l'Église qui était une sorte de pavé lancé dans la mare de la révolution industrielle et de l'essor du capitalisme.
Non ? Exactement. Et puis alors, on a eu plus récemment, j'appellerais les martyrs du totalitarisme, c'est-à-dire les chrétiens, quels qu'ils soient, prêtres, religieux et laïcs souvent, qui ont été victimes de leur attachement à leur foi chrétienne. Alors évidemment, à l'époque de la Révolution russe, qui a été extrêmement violente non seulement contre le clergé, mais contre toutes les manifestations de religion, de christianisme, mais aussi les martyrs du nazisme. On a fait une place, par exemple, dans ce dictionnaire, un grand témoin du protestantisme en Allemagne, qui est Bonhoeffer, Bonhoeffer, c'est un théologien protestant, luthérien, qui a été l'incarnation de la résistance au nazisme dans son église pendant les années 1938-45 et qui a fini par être pendu en 1945 par la Gestapo.
Et Maximilien
encore
Kolb
aujourd'hui,
aussi.
Si vous allez au cinéma, vous pouvez voir sur les écrans, à Paris, mais j'espère aussi ailleurs, un film extraordinaire qui s'appelle Une vie cachée, qui raconte la vie d'un paysan autrichien qui n'est pas un grand théologien, c'est un homme très simple, qui est marié, qui a trois petites filles, mais qui est viscéralement hostile au régime nazi quand les nazis s'emparent de l'Autriche et puis veulent imposer leur domination. Et ils veulent, quand il est appelé à l'armée, tous les soldats devaient prêter serment de fidélité à Hitler. Et lui, il sort du rang et dit non, moi je ne peux pas prêter fidélité à Hitler. Alors, on lui fait un procès, on le met en prison, etc. Et puis à la fin, comme il persiste dans son refus, il est décapité. Donc voilà, ça, ce sont les martyrs du totalitarisme.
Ce qui m'a beaucoup surpris en parcourant le livre, c'est de découvrir, parce que ça je l'ignorais totalement, qu'il était possible de devenir un saint tout en ayant confessé dans des franges non reconnues de la foi, voire dans certaines hérésies.
Bah, écoutez, surprenant. À commencer par saint Augustin, qui au début de sa vie était païen. Sa
oui,
mère était chrétienne, mais son père était païen. Mais ensuite, il s'est converti au manichéisme, c'est-à-dire les manichéens, c'était une secte, mais très importante, au 3e, 4e siècle, qui professait qu'il existait deux dieux, un dieu du bien, un dieu du mal. Enfin, c'était quand même assez éloigné du christianisme. Et donc, Augustin a commencé. Puis après, il s'est converti au christianisme orthodoxe et il est devenu un père de l'Église. Mais donc, vous voyez, la trajectoire des saints n'est pas toujours simple. Et puis, je dirais, ce qui compte, on a tendance un peu trop souvent à identifier sainteté et perfection. Or, les saints n'ont pas toujours été, loin de là, des hommes parfaits ou des femmes parfaites. Mais ils ont eu un ensemble de comportements et de vertus qu'ils ont poussé jusqu'à l'héroïsme. Parce que les théologiens catholiques appellent l'héroïcité des vertus, c'est-à-dire des vertus qui peuvent être des vertus très, très simples, de fidélité, d'engagement, mais poussées à un tel point qu'elles en deviennent héroïques et donc on peut penser qu'elles ont un enracinement spirituel surnaturel, qu'elles sont vraiment, qu'elles attestent la présence de Dieu dans la vie de ces gens-là. Voilà. Donc,
c'était le moment de rappeler que, de fait, dans l'Église catholique, j'imagine que c'est la même chose chez les chrétiens d'Orient, nous sommes tous, en réalité, appelés à devenir des saints.
Donc, la vocation du chrétien est la sainteté. Alors, tout le monde, évidemment, n'y parvient pas. Et il faut aussi souligner le fait que, au fond, Dieu seul connaît Dieu seul sait qui est saint et qui ne l'est pas. Donc, ça limite quand même la portée des listes si complètes qu'on veuille les faire, de saints qui sont à notre disposition, qui ne représentent qu'un faible pourcentage, on peut imaginer, de ceux qui ont effectivement vécu dans la sainteté. Ça a d'ailleurs été une des objections des protestants contre le culte des saints, en disant les protestants ne nient pas, Luther n'a jamais nié l'existence de la sainteté dans l'Église. Mais il dit, qui sommes-nous pour dire que tel ou tel est saint ou ne l'est pas ? Seul Dieu peut en décider. Voilà. Alors l'Église catholique a une position un peu ambiguë là-dessus, en disant, certes, seul Dieu connaît tous les saints, mais nous pouvons déjà, à partir de signes qu'il nous donne ici-bas, distinguer chez certains des traits de sainteté caractéristiques. Et on en est même arrivé à affirmer à partir du XIVe siècle que les papes étaient infaillibles, enfin que l'infaillibilité du pontifical s'exerçait dans la canonisation. C'est-à-dire que si le pape proclamait quelqu'un saint, il l'était de façon absolument certaine, il ne pouvait pas se tromper. Vous voyez, parce que le problème de la sainteté, c'est le problème de l'erreur. Alors,
dans un sens ou dans un autre, d'ailleurs.
Voilà. Donc, le problème, c'est de ne pas se tromper. Et du coup, on a voulu éviter tout risque d'erreur. Donc, d'une part, en faisant des enquêtes de plus en plus approfondies, mais aussi en affirmant que lorsque le pape, après avoir pris conseil de consistoire des cardinaux et après avoir fait enquêter de façon très, très précise sur la sainteté du candidat aux autels, eh bien seul le pape pouvait ne pas errer, ne pas se tromper en canonisant un saint.
À propos des saints, peut-être peut-on citer, comme vous le faites à la fin de l'introduction, le pape François qui écrit ceci. Tout ce que dit un saint n'est pas forcément fidèle à l'évangile. Tout ce qu'il fait n'est pas nécessairement authentique et parfait. Ce qu'il faut considérer, c'est l'ensemble de sa vie, tout son cheminement de sanctification. Autrement dit, c'est un appel à faire du mieux que l'on peut de toutes ses forces dans sa vie. Ce qui me conduit à une ultime question. Est-ce que vous pensez que la sainteté a encore une place dans des sociétés telles que la nôtre? Est-ce qu'elle peut être un aimant à la fois pour les individus et peut-être pour les sociétés? Il a un statut un peu étrange aujourd'hui, quand même.
Absolument, non. Je crois qu'il y a un double phénomène. D'une part, le culte des saints, tel qu'il a été pratiqué jusqu'à présent, devient de plus en plus étranger à la plus grande partie de nos concitoyens, de nos contemporains. Le choix des prénoms, par exemple, c'est significatif, a énormément évolué au cours des 30 dernières années. Quand vous prenez les noms des enfants d'il y a 30 ou 40 ans, c'est encore à peu près les noms du calendrier liturgique de l'Église catholique ou de l'Église orthodoxe, enfin, des saints du calendrier. Aujourd'hui, vous avez une recherche, au contraire, des prénoms originaux et une multiplication de prénoms qui n'ont rien à voir, de personnages qui n'ont rien à voir ni de près ni de loin avec la sainteté chrétienne. Voilà. Donc, le panorama a complètement changé. La notion de sainteté n'est plus en odeur de sainteté, si je peux dire. En tout cas, elle n'est plus si bien vue que cela parce que, justement, elle évoque des choses qui font problème, comme les trafics de reliques qui ont incontestablement existé, ou des manifestations superstitieuses liées parfois au culte des saints. Bon, donc il y a un doute sur la sainteté aujourd'hui, telle qu'elle a été reconnue ou pratiquée jusqu'à présent. Mais par ailleurs, toute société, y compris les nôtres d'aujourd'hui, ont besoin de héros. Donc ces héros, on peut les appeler comme on veut, mais on distingue quand même des gens qui font des choses extraordinaires qu'ils n'étaient pas obligés de faire. Je pense à l'épisode l'année dernière du colonel Beltrame. Voilà, bon, ça a énormément frappé les gens. Il n'était pas obligé de prendre la place de la caissière du supermarché. Il l'a fait quand même. Alors, pourquoi, on ne sait pas. Il n'a pas explicité lui-même, il n'a pas eu le temps d'ailleurs, le pauvre, d'expliciter ce choix. Il l'a peut-être fait de façon instinctive, mais on a quand même été frappé par cette capacité de faire quelque chose qui n'était pas dû, qui n'était pas, obligé. Mais. Et il est frappant de voir qu'il y a des personnages aujourd'hui, comme pendant 20 ans, je crois, ou 30 ans, l'abbé Pierre était toujours en tête des personnages populaires en France, vous voyez. Sœur Emmanuel ou des gens comme ça. Donc il y a quand même, il subsiste aujourd'hui dans nos sociétés très laïcisées, une sensibilité à l'extraordinaire. Alors l'extraordinaire d'une vie plutôt qu'à l'extraordinaire des miracles sur lesquels on peut évidemment gloser indéfiniment ou avoir des doutes. Mais qu'il y ait des gens qui ont démontré dans leur existence quelque chose qui allait au-delà du comportement, non seulement du comportement moyen, mais même de ce qu'on pouvait attendre de mieux, c'est quand même assez frappant. Et je crois que ça illustre bien cette survivance de l'idée qu'il y a quand même des gens qui arrivent à dépasser la condition humaine. Alors, pour les uns, ça sera sous l'influence du Saint-Esprit et de Dieu. Pour d'autres, ça sera une espèce de dépassement qu'on s'explique mal, mais qu'on est même obligé de constater.
Écoutez, je suis certain que pour prendre conscience de ce patrimoine, de ces choses qui survivent, fussent par leur absence douloureuse, On peut nourrir ses recherches et mieux les comprendre en se plongeant dans votre dictionnaire. Ce n'est évidemment pas un livre qu'on lit d'une seule traite. On peut lire l'introduction d'une seule traite. Mais ensuite, on peut picorer au gré de ses humeurs, des prénoms qu'on peut avoir dans son entourage ou de la toponymie de sa ville et de son lieu de vie. Et puis, on peut utiliser aussi les outils que vous avez mis en fin de dictionnaire et qui sont substantiels. Il y a des listes de saints patrons, évidemment, le calendrier liturgique avec les saints du jour et bien d'autres outils qui permettent de voyager dans ce livre comme on voyage à travers la foi et l'histoire, puisque la foi, c'est un chemin, et l'histoire aussi, et c'est certainement deux choses à poursuivre. Merci beaucoup, André Bauchet.
Merci à vous. Thank you.